Ok, bien bonsoir. Donc, on va commencer cette séance. Ce que je voudrais, c'est essayer de partager avec vous des réflexions qu'on a menées avec Rav Moshe Grunstein et Jean-David Psika. Donc, plus qu'une conférence formelle, je voudrais que ce soit un peu essayer de vous communiquer, vous faire partager des réflexions à partir donc de textes que vous avez là, et je vous indiquerai à chaque fois un peu quelle partie du texte on va mobiliser, mais on va commencer tout de suite par cette Guémara de Brachot que vous avez là en première page. Et qui nous dit la chose suivante. Donc, on a Ravria Ben Ami qui dit au nom de Oula, donc Gadol Anéné, Migiyo, Yoter Meire Shemaim, Deilu Gabé Yire Shemaim Ktiv, Ashre Ishire Hashem. Alors, on va traduire au fur et à mesure. Donc on nous dit, mot à mot, grand est celui qui tire profit de son travail, de son effort, de son labeur, davantage, Yoter, que celui qui est Yirei Shemayim. Bon, évidemment, pour l'instant, je ne traduis pas. Celui qui craint le ciel, on aura beaucoup à travailler sur ce terme. Car, Deilou, parce que sur Gabé, concernant celui qui est Yirei Shemayim, Ktiv Ashrei Ishirei Hashem. Donc là, on nous cite directement un Tehilim sur lequel on va revenir plus en détail. Donc, mot à mot, enfin, on va garder Ashrei aussi dans cette première traduction par heureux, donc l'homme qui craint Hashem. Veilu Gabenene Migiyu Ktiv. Et concernant celui qui tire profit de son labeur, il est écrit. Alors là aussi, on cite Tehilim sur lequel on aura à travailler plus en détail. Yagiya kapecha kitochel, ashrecha vetovlar. Il est écrit donc pour celui qui tire profit du travail de ses mains, qui en consommera. Il est écrit pour lui, tu es heureux et bon pour toi. Pour l'instant, c'est évidemment très mystérieux, on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Mais tout de suite. La Guémara va nous livrer une interprétation, en quelque sorte, en nous disant Ashrecha, tu es heureux, Beolamazé, dans ce monde-ci, et Tovlar, et bon pour toi, Leolamaba. Ou les Gabeyire Shemaïm, Vetovlar, l'Octive. Alors là, ça, c'est une sentence terrible pour celui qui est Yire Shemaïm. Il n'est pas écrit est bon pour toi, comme on vient de le dire, dans le monde futur. C'est vraiment très, très, très curieux, quoi. Il y a quelque chose qui tout de suite nous frappe parce que on se demande pourquoi il y a cette sentence qui arrive là assez brutalement. Pourquoi celui qui est Yirei Shamayim, dont a priori on pourrait penser qu'il a. Toutes les qualités d'un homme pieux, on va revenir exactement, effectivement, qu'est-ce que Tehilim dit de cet homme-là. Il y a une sentence, on ne dit pas bon pour toi, comme l'interprète la Guémara, dans le monde futur. C'est assez étonnant. Donc on va essayer de travailler sur cet enseignement de la Guémara, bien sûr, en référence au Tehilim, dont la Guémara tire ses. Mais je fais un petit peu un point par rapport à ce qu'on a vu aussi dans les séances antérieures. On a là l'utilisation donc du terme Ashré, hein. On a bien dit aussi dans les premières séances que ce terme n'apparaît dans le Chumash qu'une seule fois sur le terme Ashrecha Israël, heureux es-tu Israël. Et je garde bien ça de côté parce qu'on aura à s'en servir tout à l'heure, Mais pour l'instant, c'est pour souligner que le terme Asheré est vraiment paraît très spécifique de Tehilim, on le trouve aussi dans Michelet, mais il est vraiment très spécifique de Tehilim. Donc, la Guémara, là, nous propose de travailler sur quelque chose un peu inhabituel, puisque ce n'est pas complètement un passouk sur lequel il y a vraiment un appui dans le roumage proprement dit. Donc, ça attire un petit peu l'attention. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, là? Et alors, ce qui frappe aussi tout de suite, c'est donc qu'on met deux Tehilim un peu en regard. Alors, je donne les Tehilim 112, Tehilim 128. Hein. Retenez bien, parce qu'on va se servir de ça. On va les regarder plus en détail. Et puis, il y a aussi un petit point qui va concerner Tehilim 84. Mais vous inquiétez pas de ces chiffres, on y reviendra parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc ici, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a deux situations. L'une, donc, on a quelqu'un qui est présenté comme craignant le ciel, il irait Hachem, il irait Shemayim. Et l'autre paraît mis en regard de ce premier, il bénéficie du travail de son du fruit de son effort. Bon, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Simplement, pour bien remarquer que la Guémara... Nous, Tehilim, bah, si on les lit à la suite. Là, la Guémara, c'est assez intéressant. Elle en prend deux comme ça et elle les met en regard. On pourrait dire en miroir l'un de l'autre. C'est ce qu'on appelle une réflexion. Donc, elle nous engage à réfléchir à partir de cette mise en regard de deux situations. Alors, est-ce que c'est vraiment une mise en opposition? On a un peu cette impression, on est gêné par le terme. Il y en a un qui est gadol yoter que l'autre, plus grand que l'autre. On a l'impression qu'il y en a un à qui on décerne un mérite plus grand, etc. Alors, je pense qu'on corrigera un petit peu cette impression en voyant que cette situation de mise en regard, cette réflexion qui va amener à une construction qui n'est pas forcément simplement pour dire qu'il y en a un qui est plus grand, Yirat Shamayim, meilleur que l'autre. C'est simplement bon, une qualité de construction qui est un petit peu effectivement différente. Bon, on va y revenir. Mais simplement pour vous faire remarquer que dans le texte, il y a déjà plein de bizarreries, c'est pas vrai, mais c'est construit comme d'emblée comme une réflexion, comme un enseignement. Je crois que c'est tout à fait... Je m'étais dit aussi, à quoi on pourrait comparer cette mise en regard des deux Asherés, c'est aussi comme presque comme dans un dialogue entre deux personnages, comme s'il y avait une perlaboration entre eux par le langage, par leur dialogue. Alors, autre remarque également dans les préliminaires, on avait vu que aussi Asheré est une forme construite plurielle. Donc, le but du séminaire va être de donner du sens à ces Asheré. Donc, on va essayer de le faire ici. Je proposerai un sens. Peut-être vous trouverez que c'est pas comme ce qui convient. Un sens pluriel, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi une pluralité de sens. Hein. Donc c'est pour ça que peut-être il y a cette construction à travers différents Asheré, et ça nous invite à un travail qui se contenterait pas d'une définition simple. Puis voilà, on a réglé le compte, on sait ce que c'est que ça veut dire qu'être heureux. Voilà. Donc, la première question qui est évidemment posée, c'est pourquoi, bizarrement, de façon un peu surprenante, de M. Asheré 112, le premier, celui qui est Yireh Shamayim, va revenir après dans Tehilim, il n'est pas dit Vetov Lar pour le monde futur. Donc ça, j'ai dit tout de suite, ça c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous travailler, c'est un peu bizarre. Et évidemment, en regard de ça, pourquoi de M. Asheré 128, il est celui qui bénéficie de son travail, et on dit ça de lui pour le monde futur, alors qu'a priori, s'il bénéficie du fruit de son travail, a priori, on dit c'est dans ce monde-ci. C'est un type qui a assisté au séminaire travail l'an dernier et qui sait que le travail a une grande valeur. Donc voilà, donc c'est bien, il est heureux parce qu'il donne grande valeur à son travail, voilà, c'est très bien. Mais pourquoi on dit Vetovlar, monde futur? L'interprétation qu'en donne la Guémara, évidemment, est pas pas très simple hein, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas grand-chose hein, en réalité aussi à partir de là. Bon, on va essayer évidemment de suivre le chemin que nous propose la Guémara, c'est-à-dire travailler sur cette mise en regard de Théhilim. Alors, donc, je vais faire aussi deux petites considérations préalables avant d'entrer dans Théhilim. Ce qui est assez curieux, c'est que donc là, la Guémara ne nous dit pas, alors que c'est dans Théhilim, on va le voir, que dans les deux cas, ce sont des personnages ou des situations de Yirat Shamayim. Hein, vous remarquez, là, on dit celui qui est né Médio, qui profite du fruit de son labeur, la Guémara ne le dit pas, là, elle ne le rappelle pas que Théhilim dit que c'est aussi un type qui est Yirat Shamayim. Donc, je me suis demandé pourquoi cette omission, entre guillemets. Alors, j'ai pensé que c'est parce que la Guémara ne veut pas qu'on travaille sur l'opposition de deux postures d'Yirat Shamayim. Ce n'est pas tout à fait ça qu'elle veut nous faire faire comme travail. Parce qu'on pourrait dire, alors, effectivement, il y en a un qui est gadol en Yirat Shamayim, il est beaucoup plus pieux que l'autre. Alors, bon, je pense que ce n'est pas ça qu'on nous invite à faire. Donc, on va essayer de travailler un petit peu autrement. Alors, une autre considération préalable, qui rapidement, mais c'est. Vous ne trouvez pas ça surprenant aussi que. Il y a des choses. La Guémara nous dit il y en a un, il est hacheré dans ce monde-ci, il est hocher dans ce monde-ci, il est heureux dans ce monde-ci. Vous savez ce que ça veut dire, vous, être heureux dans ce monde-ci? On ne sait pas. La Guémara ne nous dit rien, là. On a l'air de dire que c'est évident, on peut être heureux dans ce monde-ci. Bon, oui, il est hacheré dans ce monde-ci, la Guémara ne se pose pas de questions là-dessus. Bon, c'est curieux ça. Et alors évidemment, tov pour le monde futur, là on ne sait pas ce que c'est que le monde futur. La Guémara elle-même, surtout dans Relec de Sanhedrin, nous dit qu'il n'est pas question de s'interroger sur ce qu'est le monde futur, on risque de dire absolument n'importe quoi. Donc, pourquoi ils nous disent ça comme si on avait un dictionnaire, monde futur, on sait, monde présent, heureux dans le monde présent, on sait déjà ce que c'est. Donc on a aussi un besoin d'un dictionnaire, et probablement donc c'est Théhilim, et puis la grammaire va être la mise en regard de ces Théhilim. Alors encore aussi sur le monde futur. Qu'est-ce qui nous permet même de dire qu'on a tout simplement un futur? Alors, est-ce qu'on ne dit pas que le lever le matin, c'est une forme faible, certes, mais c'est une forme de triat hametim, c'est-à-dire de résurrection, etc. Donc, au fond, qu'est-ce qui permet de dire, déjà, qu'est-ce que c'est que cette assurance, même d'un futur immédiat? C'est pas si simple, donc, déjà, hein, toutes ces notions. Voilà. Voilà. C'est pour dire qu'on a besoin d'un dictionnaire pour tous ces termes. Et encore une fois, la grammaire, c'est un peu cette réflexion que la Guémara va nous inviter à faire. Alors, on va rentrer donc un peu dans le texte. Donc, je vous invite à regarder maintenant la photocopie là que vous avez donc de Théhilim 112, hein, Kufiyut Beis, qui commence par Alléluka, Ashrei Shirei et Hashem. Mitzvotav, Chafetz Meod. Donc encore une fois, le terme Ashrei, on va essayer de proposer des définitions. Ici, on a donc tout simplement un heureux, l'homme qui craint Hachem. Mais on glisse très vite sur un problème, c'est que ça commence par Alléluka. Hein. Alors, c'est bizarre, parce qu'on dit louange, louer Hachem, et puis on dit tout de suite, on fait l'éloge d'un type. On va regarder, mais on regardera plus en détail, mais on va faire l'éloge d'un type qui irait Hachem. Alors, c'est bizarre, on commence par dire louange, et on fait l'éloge d'un type. Vous verrez dans le texte, mais on ne va pas s'émerveiller de ce que fait Hachem dans le monde. Alléluia, c'est le type dont on va faire l'éloge. Donc c'est un peu étrange. Et On le verra également dans Tehilim 128, c'est pareil. C'est une louange d'Hachem aussi, indirectement, mais qui va commencer par faire l'éloge d'un bonhomme, qui est Yireh Shamayim. Alors, comment est-ce qu'on passe de louange d'Hachem à Yireh Shamayim? Je me suis en tout cas dit qu'on avait une clé de lecture quand même pour beaucoup, pour l'ensemble des Tehilim, puisque au fond, on sait bien que Tehilim, bon, louange d'Hachem, comment Meshoni qui traduit par gloire, bon, il y a toutes sortes, bon, psaume, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est effectivement une expression d'une louange qui passe par des situations où l'homme va aussi devant Hachem exprimer ses doutes, ses angoisses, ou son émerveillement, ou sa joie, ou sa reconnaissance. Mais c'est louange d'Hachem. Et là, on a donc on commence. Le premier Tehilim, le premier terme de Tehilim, du premier, c'est Ashré. Donc, on a ce passage étonnant. Donc, louange. Louange d'Hachem, eh bien, on a Ashré et en somme digne d'éloge, c'est ce qu'on va faire, et l'homme qui loue Hachem. Donc, c'est assez extraordinaire ce renversement. Donc, on est Ashré parce qu'on peut faire la louange d'Hachem, en quelque sorte. Et à ce titre-là, ce type-là, il est Ashré, et on va montrer que c'est pas rien d'être Ashré dans ce monde. Et, alors, reprenons donc plus en détail maintenant notre Tehilim 112. Alléluia, donc Ashrei Yishireh et Hashem, Mitzvotav Chafetz Meod. Donc digne d'éloge, enfin heureux, mais on peut faire son éloge. Il est heureux, cet homme qui craint Hashem et qui désire très fort ses commandements. Gibor Baretz Yezaro. Donc sa descendance sera forte, vaillante sur terre. Dor Yesharim Yevorar, une génération de gens droits sera béni, qui est une génération qui vient de lui, on peut supposer qu'il sera béni. Onve Osher Bebeto, Vetzitkato Medet Load, donc bien fortune dans sa maison, sa justice tient à jamais. On va revenir sur plusieurs des thèmes, ne vous inquiétez pas, il y en a qui effectivement ont beaucoup de résonance. Zarar Bachosher, Or les Yisharim, elle brillera dans l'obscurité la lueur pour les hommes droits. Hanoun Verachum Vetzadik, il est plein de pitié, de tendresse, il est juste. Vous voyez, on fait son éloge. Tovish Ronen ou Malvé, c'est un homme de bien qui a beaucoup de pitié, d'empathie, qui prête. Alors là, au passage, un Tovish. Donc on lui dit Tov, mais plutôt c'est un homme bon, c'est un homme du bon. Et pourtant, on dit pas, c'est de lui qu'on dit pas Vetov, l'art dans le monde. Alors. Kileolam lo yimod, jamais il s'écroula, zerecholam yitzadik, en mémoire à jamais sera le juste, mishmoara lo yira, d'une mauvaise nouvelle il n'aura pas crainte, nachon libo batuach bachem, son cœur est fidèle, confiant en Hachem, titkato medet loav, on répète encore ça, donc sa justice tient à jamais, karnotarum bechavot, son renom sera élevé dans l'honneur. Donc on a un mizmor, on a Tehilim qui fait l'éloge d'un homme, de celui qui craint Hachem. Et comment est-ce que ça se traduit? On va redétailler ça par déjà deux choses qu'on va regarder rapidement. Par un certain rapport au futur, vous auriez dû me dire où est-ce qu'on parle du futur? Si, on parle beaucoup de son futur là. Mais un certain rapport au futur. Et un certain rapport au mitzvot. Ça, c'est comme ça aussi que se construit sa crainte d'Hachem. Alors, en effet, regardez bien dans le texte. Donc, dès le deuxième passouk, Gibor Baretz Yezaro, c'est son futur, sa descendance. Une promesse de bracha pour sa descendance. Après, on va avoir donc comme on l'a vu, des deux fois dit Tzidkato Omedet Load, donc sa justice. Sa justice, elle tient à jamais. Il y a donc un souci de montrer l'avenir de cet homme dans la réalisation d'une promesse, d'une bracha. Et on voit que donc il est d'une certaine manière confiant dans l'avenir, parce qu'il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Je cherchais le terme que je ne retrouvais pas, les erreurs olam aussi, il est tzadik. Sa mémoire, donc sa justice sera vraiment pour toujours, etc. Donc il a une promesse de futur, et il semble un homme qui est Yira Hashem, mais qui manifeste ça, enfin qui vit ça dans une sorte de grande confiance, qui lui permet d'ailleurs de faire face à ses devoirs de tzedaka, de prêter de l'argent. Ses devoirs vis-à-vis des autres, il les fait avec grande confiance, avec largesse, parce qu'il a une sorte de confiance, de sécurité, d'assurance. Bon, ça c'est une première description de son rapport au futur, un rapport de confiance bâti dans la Yirat Shemayim, mais un rapport de confiance et un futur qui lui semble assuré en quelque sorte. Je ne sais pas s'il est à la Matmut, machin, je ne sais pourquoi, mais il a une assurance vraiment là que ça va bien se passer pour lui, au point donc qu'il peut accomplir des choses avec. Alors, quand même, c'est un type qui en veut. Hein. Il veut accomplir il est refetz mais od ben mitzvot Hashem. Hein. Il les désire. Hein. C'est pas, il fait pas simplement ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch. Je sais pas quoi. Il en veut hein, vraiment. Il cherche, il court après les mitzvot. Il est rodef acharei mitzvot. On dirait même qu'il est prêt à se mettre complètement aux ordres d'Hachem pour accomplir les mitzvot. Alors, c'est un peu étonnant. Il y a un portrait qui est effectivement assez riche de sa position. Simplement, peut-être on va voir, on va réfléchir sur un point, c'est quand même que cette confiance-là sur son avenir, en même temps, bizarrement, semble le décharger, lui, de faire des plans pour son avenir. Hein. Il fait ce qu'on lui dit de faire, il fait les mitzvot, il cherche à les faire, il veut faire... bonté, charité, etc. Mais et son avenir va se faire. On sent pas qu'il le prend complètement en main, quelque sorte. Il y a quelque chose qui est un petit peu... Bon, il craint pas les mauvaises nouvelles, etc. Donc il est récompensé dans ce monde par sa richesse et la fortune de sa maison, sa postérité. Mais, alors, pour maintenant faire un petit renvoi à ce qu'on avait vu dans la séance précédente avec... Michael Seban et l'histoire de Rabbi Hanina, lui, il semble qu'il n'entame pas son salaire dans le monde futur pour autant qu'il a une postérité, une récompense dans le monde présent. Hein. Vous vous rappelez, enfin, pour ceux qui étaient là, ou sinon, très rapidement, on avait vu l'histoire du rêve de Madame Hanina Bendossa, qui voyait que si... Si le pied de la table du monde futur, elle en profitait dans le monde présent, il serait retiré du monde futur. Lui, ça n'a pas l'air d'être son problème. Il est récompensé dans ce monde présent, et pourtant, ça n'a pas l'air de dire que qu'il sera retiré du monde futur. Donc ici, on n'a pas dans un problème de calcul, SRAR, VONEJ, salaire ou sanction, selon la façon dont il se conduit dans le présent, est-ce que ça va obérer son futur ou au contraire, est-ce que ça va lui donner plus de mérite et de salaire dans le monde futur? Il ne calcule pas comme ça du tout. Bon, c'est vrai qu'il peut être toujours important, peut-être, sûrement il le fait aussi à Rosh Hashanah, il fait le compte de ses mérites, de ses choses, pour savoir où il en est dans sa vie. Mais il ne paraît pas faire ce calcul qui l'amènerait à caler sa conduite dans le présent en fonction d'une récompense dans le futur. Donc, voilà. Alors, autre attitude de ce Ashrei 112, il y a une petite chose quand même que je voudrais aussi introduire, parce que je pense que c'est en rapport avec ce que je viens de dire là. On dit « Ishire et Hashem ». Donc ce « et » est un peu curieux. On le verra dans d'autres endroits. « Yire Shemayim », « Yire Hashem ». Le Malbim, lui, fait remarquer que ce « et Hashem » nous indique qu'il n'est pas « Yire mais Hashem ». Littéralement, il craint « et Hashem ». Il craint Hashem complètement et rien d'autre. Il y a Rabbi Akiva pour être d'Oresh que ce Et Hashem inclut les Talmidei Rachamim, mais ici c'est pas notre question. Il est Yiré Et Hashem, mais il n'est pas, le Malbim souligne, ça veut dire qu'il n'est pas Yiré mais Hashem. Il n'y a pas crainte de sanction, de punition ou en revanche de salaire. Donc il a une crainte qui est désintéressée de calcul. Hein. Il a. Alors voilà, donc il est appelé heureux, il est appelé Ashrei, ce 112 là, ce Ashrei 112, parce qu'il se situe dans une certaine assurance du futur, dans une promesse de futur. Donc son présent, c'est celui d'un homme pieux, qui recherche les mitzvot, et dont la conduite n'est pas obérée par... problème de salaire, il peut vivre avec confiance, il a une assurance. Ça ira l'assure d'un futur. Mais bon, est-ce que cette assurance le dispense de construire son futur? Alors c'est peut-être là où il y a un truc qui pose problème et qui serait éventuellement. On verra si ça tient la route, qui serait ce problème-là que pose la Guémara en mettant Ashrei 112 en regard de Ashrei 128. Parce que du Ashrei 112, il n'est pas dit Vetov Lecha. On va voir si c'est parce que peut-être qu'il a une assurance du futur, mais il ne construit pas son futur. On va évidemment préciser un peu ce que ça veut dire. Alors, donc, on va reprendre maintenant. Que dit notre Guémara, qui va citer Tehilim 128, et on va regarder Tehilim 128 maintenant plus en détail. Donc, les gabénéné mi guillo ktiv, yegiya kapecha kitochel, ashrecha vetov lar. Alors, 128, donc vous l'avez un peu plus loin, kuf raf chet, shira maalot, ashrekol yire hachem, aoler vedrachav. Donc, heureux celui qui craint Hachem, qui marche dans ses voies, le produit de ton effort, de ce qui vient de ton labeur, tu en profiteras, et tu es Hachré, tu es heureux, et le bien pour toi. Alors après, donc, il est très court, donc rapidement, donc Ishtecha, Kegefen, Poria, Donc ton épouse sera comme une vigne féconde, et tes fils seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Donc ainsi est béni l'homme qui craint Hachem. Qu'Hachem te bénisse de Tzion, tu verras le bien d'Yerushalayim tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, paix ou plénitude sur Israël. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent, ou au contraire, qu'est-ce qu'ils ont de commun qu'on puisse les mettre en regard l'un de l'autre, ces deux Asherets, et qu'est-ce qu'ils ont de différent qu'on puisse effectivement dire de l'un, et une sentence sur l'autre, de l'autre plutôt, une sentence qui le dire, et le premier, 112, donc, lui, Evetovlar, l'octive. Alors, formellement, il y a une première différence qui est donnée donc, dès le premier passouk de ce mizmor.
Le seul problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on sort d'Égypte, on nous a donné l'ordre de sacrifier l'agneau pascal. Tout le monde va sortir d'Égypte et tout le monde va traverser la mer pour retrouver Israël, pour retrouver la Torah,
Oui,
tout simplement.
on y reviendra un peu, c'est une remarque
Le
qui
problème, ce qui
date de
s'est
fait.
passé jusqu'à maintenant, c'est que nous, on pense qu'à nous. Parce qu'on pense aux humains qui ne sont pas juifs. Il faut les faire sortir d'Égypte, il ne faut plus que les maîtres, que ce soit nous.
Alors, vous allez voir qu'on va en parler, mais
Hachette.
on va parler.
On a accepté nous-mêmes que c'est les non-juifs
Ouais,
qui nous ont convertis et non pas le
alors,
contraire.
vous allez voir qu'on va y revenir. On
Ouais.
va y revenir,
Ouais.
mais je suis peut-être un petit peu long, je m'excuse, mais on va parler de ce problème tout à l'heure, c'est tout à fait important. Alors, donc, je ne sais plus où j'en étais, du coup, voilà. Alors, celui-là, ce Yirei Hashem, donc de 128, formellement, il y a déjà une petite chose qui est apportée dès le premier passouk. Il a holer bedrachav, hein, il marche dans ses voies. On comprend dans les voies d'Hachem, hein, en gros, hein, bien sûr. Notons quand même qu'il y a une toute petite ambiguïté. C'est comme quand on dirait en français dans ses voies. On ne sait pas de qui on parle vraiment. Est-ce que c'est ses voies à lui ou est-ce que c'est les voies d'Hachem? Cette petite ambiguïté, vous allez voir qu'elle est assez importante. Hein. C'est juste pour déjà pointer cette question-là. Alors. Il y a une autre chose que fait apparaître aussi la Guémara, qui nous donne une petite clé au passage, dont on avait aussi parlé dans la première séance, qui est assez intéressante. De celui-là, donc du 128, la Guémara dit qu'il est Ashrecha ba'olamazé vetov lecha le'olam haba. Il est mis en perspective du futur, d'emblée, nous dit la Guémara. D'accord? Donc c'est bon pour toi, pour le monde qui vient. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est Léolam Haba, dans la perspective d'un futur. Et je serais tenté de dire, par opposition à Acheré 112, qui semblait lui situé dans la perspective d'un heureux dans le monde présent et d'une assurance Béolam Haba. Si on peut jouer. C'est pas ce que dit la Guémara, je triche un petit peu. Mais là, quand elle dit pour l'un Léolam Haba, on a l'impression que l'autre, il a une assurance dans. Ça y est, c'est déjà mis dans le monde futur, en réserve, en garantie. Bon, en tout cas, le Léolam Haba est tout simple, nous indique que la construction du futur pour Acheré 128 semble un petit peu se faire peut-être différent. Alors, moi, j'ai aussi pris. Dans les termes de ce Tehillim, quelque chose qui m'a aussi frappé. Donc, on parle bien sûr de son épouse, de ses fils. Bon, on a aussi le futur. On en parlait aussi de l'autre, hein, de sa descendance. On parlait de ses fils et tout. Mais là, ce qui m'a frappé, c'est que on parle du terme de. Je le retrouve. Excusez-moi, ça va venir. Je me suis embrouillé dans mes feuilles. Eshtecha. Bien sûr, Eshet, c'est construit sur Isha. Or, moi, ça m'a un peu frappé parce que Isha, comme on l'avait aussi travaillé avec Rav Gonstein, c'est Isha, c'est dans le pasouk de Bereshit, c'est Vayiven Hashem Elokim et Atzela Asher Lakar Mina Adam, les Isha. Dire que Isha, c'est une construction aussi. Hein. Donc, bon, il ne faut pas trop exagérer, je ne vais pas trop tordre dans ce sens-là, mais enfin, déjà, ce terme évoque une idée d'une construction, alors qu'il se fait aussi avec son épouse, et bien sûr, les fils, Bonim, Lachon Bonnet, construit, etc. Alors, j'ai envie de dire de manière assez condensée que, du coup, ce Hacheré 128, lui, il n'a pas une assurance du futur qui est donnée comme ça, a priori. Mais lui, c'est parce qu'il va, c'est parce qu'il construit son monde futur qu'il aura un futur. Voilà. En ça, il est au cher. Donc ça, on a l'impression que ça met l'accent un peu là-dessus. Et pourquoi ? Parce que, comme on l'avait aussi fait remarquer, Rav Gonstein l'avait rapproché de l'étymologie que nous donne Rav Hirsch du mot Osher. Rav Hirsch dit que c'est en rapport avec une idée de développement, hein, Osher. Bon, je n'ai pas là sous les yeux les termes exacts dont Rav Hirsch donne son étymologie d'Osher, mais il dit que c'est quelque chose qui... Ça introduit, dit le sujet, dans le cadre de ce qui va devenir sa caractéristique. C'est une façon de progression. Donc, Hacheré 128, c'est un homme en marche, c'est un homme en développement, c'est un homme qui construit son futur et pas simplement qui le voit se dérouler devant lui. Il est, voilà. Alors, est-ce que ça serait pour ça donc qu'il aurait Tov devant lui, celui-là? Tov comme but de cette construction ou comme... comme perspective dans sa construction. Et ce Tov est absent de 112. Pourquoi à ce moment-là? Parce que 112, lui, il est assuré d'avoir une part dans le monde futur, donc il ne met pas sa construction en perspective de ce Tov. Il n'a pas besoin de Tov pour développer sa démarche, notre 112. C'est-à-dire une conscience qu'il faut travailler pour se construire. Alors, Hacheré 112, on a vu, il a une grandeur propre, hein, il acquiert par ses mérites une assurance sur sa part dans le monde à venir, mais il ne perçoit pas pour autant un surplus, il n'a pas Tov. Bon, c'est... Alors, comment est-ce que 128, lui, paraît construire son futur? Alors, on sait peu de choses, hein, mais dans ce qu'on nous dit, donc, il est Oler Bedrachav, il marche dans ses voies. Alors, voilà. Voilà, ça pose un petit peu problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Il marche dans ses voies. Bon, déjà, on pourrait dire qu'il prend... c'est bien sûr cette idée de développement, de marcher. Il prend un risque, peut-être, de marcher dans les voies d'Hachem, parce qu'il n'a pas, comme Hacheré 112, l'assurance, la force tranquille. Hein. Donc, peut-être, il prend un risque. Mais donc... cette expression de marcher dans les voies, dans ses voies, on la retrouve dans plusieurs Tehillim, souvent, et donc il y a, je ne sais plus dans lequel exactement, mais Ibn Ezra fait remarquer que c'est dans le sens de marcher droit, de suivre la halakha en quelque sorte. Hein. Ibn Ezra il dit qu'il s'agit des mitzvot assez, là, des mitzvot positives. Voilà, donc on aurait une progression, marcher droit selon la halakha, mais ici, dans 128, le fait de marcher ici serait plutôt dans le sens de halicha, d'une marche, d'une capacité à inventer le chemin, de se conduire dans le monde, donc de manière à... selon des midotes où l'on prend en charge aussi la conduite du monde comme une manière un peu qui a rôle divine quoi. Alors c'est peut-être ça qui fait comprendre qu'il est né Meguillot, parce qu'il profite de ses efforts Alors, certains, Khazal disent que c'est parce qu'il ne dépend pas des autres, il profite de ses propres efforts. Mais effectivement, allons plus loin, ça veut dire qu'il fait son propre travail pour avancer dans ses midot et faire progresser. Donc, alors on pourrait dire comme ça, donc dans Ashré 128, il s'agit d'une construction du futur, non pas en recherchant les mitzvot, simplement en étant aux ordres un peu, là, soit les mitzvot, je l'ai fait, comme dans 112, mais en devançant les ordres d'Hachem. Est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Comment est-ce qu'on pourrait devancer les ordres d'Hachem? Il n'y a qu'une seule solution, c'est parce qu'on étudie. La parole d'Hachem, c'est la seule façon on pourrait dire qu'on pourrait être capable de devancer les ordres d'Hachem, c'est par l'étude. Donc on aurait un homme qui est pieux, un homme qui a confiance, 112, qui fait les mitzvot, et on aurait là un homme, disons, d'étude, qui lui va faire les mitzvot, mais en essayant de comprendre, de devancer les ordres d'Hachem. Bon, comment est-ce qu'on pourrait avoir la chutzpa de dire qu'on ferait des choses pareilles? C'est une prétention absolument folle. Mais on a un exemple quand même, c'est celui d'Abraham Avinu, lui-même qui allait jusqu'à effectivement interpréter les ordres d'Hachem. On le voit bien dans la Akeda, quoi. Complètement essayer de travailler, qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que j'ai cru comprendre, qu'est-ce que ça veut dire. Il va constamment dans toutes les épreuves qu'il a eues, à chaque fois c'est une occasion d'interpréter les ordres d'Hachem, et pas de dire j'ai une voie toute tracée, je la suis, mais je vais essayer d'inventer le chemin. Or on nous dit qu'effectivement il faut aussi nous se conduire au niveau le plus élevé, c'est-à-dire en se calant sur la conduite des avot. Donc, si c'est bien ça aussi le Tov, ben c'est effectivement une visée très très élevée. C'est pour ça qu'on la met peut-être en perspective du monde futur, tellement ça serait une visée élevée de se conduire à ce niveau-là. Alors, pourquoi Avraham Avinu, lui, était aussi capable d'une telle attitude? Et ben, ça va nous amener à reparler d'un midrash que Rav Gonstein avait aussi cité. Mais en gros, c'est parce que Avraham Avinu, il n'avait pas de passé, en quelque sorte. Il avait tout quitté. Il n'avait pas. Lui, il était le premier. Il n'avait pas des exemples, des avotes sur qui se référer. Alors, est-ce que c'est pour ça, peut-être, que lui a dû effectivement faire sans arrêt cet effort de Alira, de marche, de développement, de construction de son futur? Alors, reprenons ce midrash très surprenant qu'on avait vu la première fois. Donc, vous l'avez à la fin, là. J'ai entouré la lettre Tess, tête. Donc, vous voyez tout de suite, là, j'ai souligné, Ashrei kol yirei Hachem à Oler Bedrachav, donc le Midrash va tout de suite partir là-dessus. Hein. Mais alors il commente comme ça, il s'interroge sur le col qui est là, Ashrei kol yirei Hachem à Oler. Nous on s'est interrogé sur Ashrei, hein, parce que c'est ce qu'on nous a dit de faire. Le Midrash, lui, il s'interroge sur Kol. Alors là, on avait vu, là, Rav Gronstein nous avait déjà dévoilé ça. C'est tout à fait surprenant. Il dit ce Kol, qu'est-ce que ça désigne? Le guerre. Alors, le Midrash, il souligne, hein, vous le voyez. Après, il dit Eno, Omer, Ashrei Israël, Ashrei Kohanim, Ashrei Leviim. Il souligne bien, c'est pas dit pour les Kohanim, pour les Leviim ou pour Israël. Mais, et là, Ashrei kol yirei Hachem, Elou Agerim. C'est les guérim. Shehem yirei Hachem. Shehem be Ashrei keshem shenatzed. Alors, donc, c'est effectivement assez surprenant. Donc, une première peut-être remarque à faire, c'est pourquoi est-ce qu'il détaille Ashrei, il n'est pas dit Ashrei les Kohanim, Ashrei les Leviim, Ashrei les Israël. Bon, on a compris, il dit c'est guérim. Alors, D'ailleurs, de dire peut-être qu'il y a aussi, même dans Israël, enfin dans l'ensemble, dans le clan Israël, différentes voies. Chacun doit peut-être rechercher sa voie propre. Il y a Ashré Kohanim, il y a Ashré Lévim, il y aurait plusieurs voies. Et différentes voies pour servir Hachem, différentes manières d'attirer Hachem. Alors, à ce moment-là, donc, si le Midrash dit « Kol ira Hachem Selegerim », pourquoi ? C'est parce qu'ils auront une voix singulière. Alors effectivement, Ashré 128 nous dit que celui qui est né Migiyo et qui a Tov pour lui en perspective, il est né Migiyo, on comprend mieux. C'est-à-dire il bénéficie du fruit de son effort et lui, il n'a pas le mérite de ses ancêtres. C'est pour ça qu'on vient de souligner. Il a, disons, ce manque en quelque sorte. C'est pas un défaut. Là, on nous dit que ça l'oblige simplement à avoir une autre conduite, mais il n'a pas le mérite d'une lignée, de se rattacher à des exemples. Pour ça, peut-être qu'il doit inventer. Il a une voix peut-être particulière à ce moment-là. Alors. Le Midrash va nous dire que justement ce Kol Yireh Hashem qui désigne les Guérim permet de dire, quand on avait vu que dans le Roumash il y a une seule fois où Ashrecha est dit, c'est dans la Parasha Zot Abracha, donc ou dans Dvarim où il est dit Ashrecha Israël, heureux es-tu Israël, parce que dans les commentaires sur ce Ashrecha, heureux es-tu Israël, disent ça c'est vraiment pour particulariser Israël, Mikamocha Am Noshab Hashem, donc c'est quel peuple est comme toi. Donc ça singularise Israël. Alors on dirait que là ça aurait été gênant parce que le Midrash nous dit Kol Yireh Hashem, c'est les Guérim et c'est les inclus dans ce Ashrecha du Chumash, où a priori on n'aurait pas pensé qu'ils étaient dedans, peut-être. Ah. Alors en quoi ils auraient cette question-là, du coup, une manière singulière de servir Hachem, donc pourtant effectivement ce sont des Israël, ils sont inclus dans le Ashrecha. Quelle est la différence? Donc peut-être effectivement le guerre, il n'a pas de passé dans le clan d'Israël, mais par contre le Midrash maintenant va nous dire qu'il a un futur incroyable. Il a un futur qui ouvre à ses enfants ou petits-enfants la possibilité d'intégrer la famille Cohen, donc d'être au top, d'avoir des Talmidei Chachamim dans sa descendance, et même certains qui feront du business. Bon, ça, je ne sais pas si c'est une excellente idée. Donc, il peut avoir un futur inédit, non prescrit, non assuré par les promesses qui auraient été faites à ses ancêtres, puisqu'il ne peut pas s'y référer, en quelque sorte. Et donc, en cela, d'après ce que nous dit le Midrash, c'est pour ça qu'il est qualifié de Ashré, Ashrecha, Vetov, pour le monde à venir. Donc là, alors là c'est vraiment tout à fait surprenant. Et comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, devinez, d'Abraham et de Sarah, qui étaient les premiers guérims, le Midrash. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas d'ancêtres, ils avaient dû inventer. Donc le Midrash a l'air d'engouffrer complètement dans cette idée que le Tov, en tout cas pour en revenir à notre propos, est vraiment dans une capacité de mettre ça en perspective d'un futur inédit. Et pourquoi on peut avoir un futur inédit, et pourquoi avoir un futur tout simple et un futur inédit en particulier? Parce qu'on a de la Yirat Shamayim. C'est assez étonnant quand même. Mais alors, j'ai pensé quand même que ce Midrash sur les Guérim, on pourrait le prendre un peu comme un machal, c'est-à-dire comme une façon de dire quelque chose qui ne pourrait pas se dire directement pour Israël, pour les Israël eux-mêmes directement. On va prendre cette image-là pour nous donner un enseignement. Non pas que l'image elle a son sens en soi, on vient de le voir, hein, le Midrash il est très clair là-dessus. Mais ça, il semble, si c'est un machal à ce moment-là, ça voudrait dire que qu'on soit Cohen, Lévi ou Israël, de toute manière il faut servir Hachem en développant sa voie propre, ses propres midot, ses propres façons de servir Hachem. Donc bien sûr c'est la voie des mitzvot. Par exemple, le Midrash va dire les Koutim, eux, eh bien, c'était des Guérim, hein, ils avaient une Yirat Shemayim, mais ils ne faisaient pas les mitzvot. Donc, alors, il faut effectivement, ça veut dire qu'on sert Hachem selon la voie des mitzvot, mais en les faisant siennes, en quelque sorte, c'est-à-dire en étant en mitradesh, les mitzvot, c'est-à-dire en les, en les renouvelant, en leur donnant de l'inédit tous les jours. À ce moment-là, oui, on marche, Bedracha, dans sa voie propre et dans les voies d'Hachem à la fois. Bon. Donc on avait un Ashré 112, qui était avec un présent assuré d'un futur, voilà. Et maintenant, on a un autre Ashré avec ce machal du guerre, qui n'a pas de passé, mais qui est ouvert à un futur inédit. Alors, vous voyez comment cette construction donc, du 112, du 128, là. C'est des façons de construire le futur qui sont proposées, un cheminement, en fait, vers le futur. Donc, c'est pour ça que ces deux Ashré, 112 et 128, ne me semblent pas complètement disjoints. Simplement, ils sont une façon, donc, comme peut-être il faut deux jambes pour marcher, bah, il faut deux façons d'envisager son futur pour arriver à le construire, à la fois dans une halakha, une confiance en Hachem, et à la fois dans une halikha, on pourrait dire comme ça, qui est plus risquée, plus inédite, et qui ouvrirait vers un tov. Alors, je suis très long, mais je voudrais quand même parler de Tehilim 84. Parce que, alors, vous l'avez aussi, donc on s'embrouille un peu dans les feuilles. Vous retrouvez. Je l'ai mis ? Je ne l'ai pas mis ? Si. Non, il n'y est pas. Il n'y a pas Tehilim 84 ? Ouais. Il y est, je ne sais plus où. Bah, vous cherchez. Alors, il est très connu. Mais vous allez voir pourquoi je voudrais l'utiliser ici aussi. Donc il est très connu. Ashrei Yoshevei Besechod Yalelu Chasela. Ashrei Adam Oz Lobar Mesilot Lebavav Mefer. Donc c'est une évocation. Heureux donc celui qui séjourne dans tes demeures, Hachem. Alors, donc, il y a... Donc, sans heureux ceux qui demeurent dans ta maison, sans cesse ils te loueront. Heureux l'homme qui met sa force en toi, dont le cœur connaît donc les Messilot Belevavam, les chemins, les sentiers sont dans son cœur, les chemins d'Hachem, connaît donc les vraies routes, une traduction qui dit comme ça, en traversant donc la vallée de... de Bacha, donc il y en a qui traduisent par la vallée de larmes, hein. Ils en feront un pays de source, ils s'avancent avec une force toujours croissante pour paraître devant Elohim Atzion. Il est bon un jour dans tes parvis plus que mille autres. Hachem ne retient pas le tov à ceux qui marchent dans la droiture. Heureux qui est confiant en toi. Bon, j'ai un petit peu sauté des passages. Voilà. Alors, c'est un Ashré qui a une très grande importance, hein, puisque la Gemara nous dit aussi que celui qui le dit trois fois par jour, justement, il est certain d'être Ben Olam Haba. Alors, on a quelques clés de lecture grâce à ce qu'on a vu dans 112 et 128. Alors, par exemple, Tov le Olchim Betamim. Donc, il y a du bon pour ceux qui marchent. Dans la droiture. Mais là aussi, Tamim, ça s'entend, il y a deux façons de l'entendre. On l'avait dans le sens où Shakai, il avait dit à Abraham, « It aler lefanaï veyei Tamim. » Marche devant moi et tu seras droit ou intègre. Pour Noar, par contre, hein, c'est des choses que je rappelle parce qu'on les avait déjà vues, on en reparlera aussi, je pense, par la suite. On avait dit que lui, Noar, il était Ish Tzadik, Tamim, et Elohim, Italer Noar. C'était un homme intègre et droit et juste, etc. Et il marchait avec Hachem. Donc on a aussi deux façons. On a la marche du Hachré, sans doute selon la Halakha, en quelque sorte est Hachem, avec Hachem. C'est la marche d'un homme juste et pieux. Et il y a celle du Hachré 128, celui qui marche l'Ifana Hachem, qui marche devant Hachem, qui semble devancer qui vient à Hachem, c'est qu'on en avait vu, c'était Abraham. Alors on a un autre aspect là de cet Hachré, donc il a aussi beaucoup de confiance, hein, comme nous le dit le texte, mais pas sans inquiétude, hein, sa marche peut le faire traverser des vallées de larmes, voire on pourrait dire des chemins de traverse, mais il va, lui, trouver un moyen d'en faire une nouvelle inspiration, c'est-à-dire de faire des sources. Qu'est-ce que c'est des sources? C'est-à-dire que devant des difficultés, devant un certain tsar et tout, il va trouver des sources d'un enseignement inédit. Hein, on est aussi quand même toujours un peu dans cette idée. Voilà. Mais Hachré, donc, Hachré Yoshvé Betecha, c'est être dans les demeures d'Hachem. Et donc on a cette image qui va venir après. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'on serait heureux dans les demeures d'Hachem? Il faut avoir expérimenté cette proximité avec Hachem. C'est ce qui nous est dit avec l'image aussi. Donc il y a l'oiseau, là, le passereau, je crois que c'est comme oiseau, qui est aussi dans... non, c'est pas dans celui-là. Hein, si. C'est... C'est juste avant, c'est ça, hein? Oui, Gamtsipor, oui, Matsa, Baït, Ledror, Kenla, etc. Donc on a excusez-moi, j'avais coupé le début, vous rectifierez. Donc parce que il y a cette évocation avant, qu'on a connu comme un oiseau dans son nid, cette proximité, cet enveloppement dans Hachem. C'est absolument incroyable. D'abord, il y a des gens, alors dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous, maintenant, on n'a pas connu le temple, on n'a pas connu cette proximité avec Hachem. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, je vais être Hachré, Yoshvé, comment je le dis trois fois par jour, moi, quel est le sens de ça? Donc, il y a l'évocation presque nostalgique, quelque chose d'un passé perdu, d'une proximité avec Hachem, mais qui nous permet de dire, quand même, Hachré, Yoshvé, Betecha. Alors, en même temps, donc, ce que je vais tout de suite pointer, c'est ce qui, moi, me frappe énormément, c'est le Hod, il y a l'Elouha, c'est là. Alors, sans cesse, ils te loueront. Alors, là, je pense que ça, donc, on a effectivement un passé nostalgique, un peu perdu, mais tout de suite, le Passouk nous tourne vers le futur. Sans cesse, ils te loueront. Et c'est au point important que la Gemara Sanhedrin va dire, regardez bien, il n'est pas marqué, ils t'ont loué, mais il est marqué, ils te loueront. C'est-à-dire que c'est une preuve, selon le Perek Relek de Gemara Sanhedrin, c'est une preuve minatora de Triat HaMetim pour le monde futur, d'une résurrection pour le monde futur. On ne peut pas être plus futur que futur quand on réfléchit, on parle dans ces termes. Il est vraiment, on pointe sur ce « Odi Alléluia », c'est un futur tant qu'il te le rompt. Alors, je vais tordre un petit peu maintenant une lecture, parce qu'on avait vu que nos précédents, ils avaient, par exemple, 112, « Sitkato Medet Load ». Sa justice tient à jamais, comme on traduit. Mais ce lohad, il peut se lire les odes, pour un ode, pour un encore, pour un sans cesse. Alors, donc il semblerait que là, on insiste, on pointe sur ce ode pour dire que Hachré Yoshvé Betecha, il est Osher celui-là, tant qu'il pourra dire sans cesse encore les louanges d'Hachem. Donc, heureux celui qui réside dans ses demeures, dans tes demeures, ils sont comme des serviteurs qui ont goûté ta proximité pour pouvoir dire encore tes louanges, pour un encore. Donc le futur se construit sur un od, sur un encore, sur une demande d'un encore, au nom de la nostalgie d'un passé. Et donc, Ashrei ici, on a un autre, maintenant une autre lecture qui va nous compléter les précédentes. Ashrei, c'est être en capacité de dire od, de dire encore. Donc, Ashrei, être Ashrei, c'est pouvoir dire la louange de Hachem et continuer encore à la dire, c'est ce qu'on nous dit là. C'est quasiment impensable de dire qu'on peut sans arrêt dire, redire les louanges d'Hachem. J'ai l'impression que quand y a une Guémara qui nous dit qu'il y a un Talmid qui rallongeait dans sa prière, dans les louanges, etc. etc. Il ne semblait pas vouloir s'arrêter. Il y a un maître qui est venu le voir et avec un peu d'ironie, il a dit « Ah, tu t'arrêtes là, mais tu crois que tu as fini de dire les louanges d'Hachem ?» Alors que le type, il croyait qu'il en rajoutait. On n'aurait jamais terminé, donc c'est quasiment impensable de pouvoir dire tout le temps les louanges d'Hachem. De quoi on nous parle là? Alors, vous savez que dans la prière quotidienne, donc quand on dit « Ashrei Yoshev Betecha », on fait suivre ensuite de Aromim Roy, Lokai Meler, etc. Et donc après, on reprend des psukim, de louanges, qui sont dits selon l'ordre de l'Alef Bet. Donc, Rav Grunstein avait fait remarquer aussi dans un de ses shiur que ça permet une combinatoire quasi innombrable de façons de dire les louanges, parce que avec toutes les permutations possibles des lettres, on arrive à ce que la façon de dire les louanges d'Hachem puisse être quasi infinie, quasi innombrable. Donc cette perspective-là paraît donc ouvrir sur des combinaisons infinies. Donc voilà. Qu'on a un Ashrei maintenant qui va pointer sur le fait que c'est en construisant sur ce od, sur un encore les louanges d'Hachem, que là on a un Ashrei qui va s'épanouir. Mais alors je vais terminer juste un dernier truc en prenant le dernier enseignement du traité Moed Katan qui nous est donné par Avriya Barashi au nom de Rav. Il dit la chose suivante: pour les Talmidei Rachamim, il n'y a pas de repos, même dans le, pas de menoucha, même dans le monde à venir. Ainsi qu'il est dit dans ce Tehilim qu'on vient de voir ici, donc une phrase que j'ai un peu glissée rapidement tout à l'heure, mais qui est importante. Yelchou Mechayil El Chayil, Yerae El Elokim Betzion. Ils iront de maison en maison, enfin, c'est traduit comme ça, souvent de maison d'études en maison de prière. Donc, c'est-à-dire que les Talmidei Rachamim, ils n'ont pas de repos parce qu'ils iront de maison d'études en maison de prière. C'est-à-dire que là, on va retrouver peut-être notre homme du 112 et celui du 128 qui vont combiner, qui vont se renvoyer l'un l'autre. C'est-à-dire que par l'étude et la prière, on donne vie à ce od et c'est par la prière et l'étude qui permet ce od, ce sans cesse, ce encore renouveler des louanges d'Hachem, qu'on ouvre un tov en perspective. Voilà. J'étais un peu long.
Il est en fait mélange de Mitzvot, il a la crainte d'Hachem, il est des fait droit à une mitzvah et on est nishma, première question, est-ce qu'on a l'obligation de s'occuper de son futur? De quand son futur, c'est pas de sa descendance, c'est de son futur normalement on doit s'en occuper. C'est ça être nishma. Donc, est-ce que déjà on ne peut pas dire que le H312, j'allais dire qu'est-ce qui manque, il est parfait. Et ma deuxième question, c'est si j'ai bien compris le H328. Si on le rattache avec ce que tu as dit par rapport à Abraham, on pourrait presque dire qu'il concerne le guerre, quelque part.
Et c'est ce que tu dis, moi.
Mais alors, du coup, moi, ma question, c'est une autre question, c'est pourquoi, il y en a deux dans deux questions, pourquoi on dit qu'il est gadol? Et deuxièmement, ce qui me pose un problème, c'est le néné. Pourquoi on dit qu'il est néné? Est-ce que ça veut dire que celui qui est sans doute, encore une fois, c'est pas pour prendre la défense du sans doute, mais j'ai l'impression que c'est un bon, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? On fait Torah Mitzvot, on est Nishma, on est désintéressé, on est dans le présent, on s'occupe de ses enfants, on voit la bracha dans ses enfants. Et si on est Nishma, ça veut dire qu'on ne fait pas par intérêt. Donc je ne me dis pas, je construis mon avenir, je me mets au capital pour mon avenir. Normalement, je ne sais pas. Ça, c'est une interprétation.
Oui.
C'est tiré de l'interprétation par rapport à Abraham Avinu. Le marché, déjà, il marche dans les voies d'achat. Pour la Kabbalah, déjà, si on était à ce niveau-là, ce serait extraordinaire.
Peut-être d'autres remarques viendront. Ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, si tu as 112 comme ça, sans cette mise en regard du 128, tu vas dire il est parfait, effectivement.
Oui,
d'ailleurs, on dit de lui hacherait aussi, il fait tout bien. C'est parce que la Gemara va nous faire cette construction de mise en regard du 128 qu'on se dit ah. Alors, il doit lui manquer quelque chose, effectivement. Oui, alors, du coup, je suis obligé d'aller chercher dans 128 des choses que je ne vois pas apparaître forcément dans le 112. Et c'est là où, moi, quand on en avait aussi un peu discuté, il semblait que, du coup, ce qui lui manquait, c'était une capacité peut-être propre d'inventer son futur. Mais si, tu ne peux le faire que si tu mets 128. Non, parce que. Oui.
Je ne fais pas parce que je suis désintéressé. Je ne fais pas parce que j'ai ma revenu de le faire. Je me dis, oh là là, je construis mon futur. Comme si je prenais une épargne.
Oui, il a l'air d'avoir une assurance. Mais encore, par contre, j'ai bien souligné qu'il m'a semblé, quand même, dans celui-là, qu'il n'était pas dans un raisonnement j'accumule les mérites ici pour avoir plus de salaire dans le monde futur. Il sait qu'il est tranquille. Il a une assurance.
Comment on peut expliquer que la Gemara dit qu'il est gadol, alors? C'est presque un jugement de valeur, ça veut dire.
Non.
Que celui qui innove parce qu'il n'a pas passé, parce qu'il est comme Abraham Avinu, parce que
non, gadol.
Donc il est gadol par rapport à celui
non.
Qui a.
Non, le gadol, c'est le 128. Hein, c'est le 128. Ah, d'accord. Donc, la Gemara te met tout de suite, tu dis, si le 112, tu vas comprendre éventuellement qu'il lui manquerait quelque chose qui fait qu'il y a une sentence où on dit, lui, on dit pas Tov pour lui, dans le monde futur. Tu ne peux le comprendre que si tu le mets en regard de 128, et moi, je pensais aussi en regard de 84. Voilà. Sinon, tu ne comprends pas, parce qu'effectivement, il est très bien, ce type. Il n'y a pas de doute, il est hacheré aussi. On fait son éloge dans ce psaume, c'est pas évidemment.
Mais je suis d'accord qu'il y a une nouvelle opposition. Il y a l'opposition par rapport à la construction d'un futur, et puis il y a l'opposition de savoir est-ce que le 128, c'est vraiment. Ça concerne la guerre. Auquel cas, il n'y a pas.
Bon, ça c'est le Midrash qui le dit, parce que ça, c'est la façon dont le Midrash. A priori, la première lecture qu'on fait du 128, c'est pas celle-là. Et c'est quelqu'un qui est Yerachem et qui marche dans ses voies. Et c'est là où on commence à se demander qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la construction du futur. Après, le Midrash va rajouter ce truc complètement stupéfiant. Il dit, effectivement, il faut qu'il invente sa voie parce qu'il n'a il a pas un passé de référence.
Voilà. C'est... on dit que le 128 il est
Ah, on a vu que néné voulait dire justement, c'est au sens que s'il il profite du travail, de son labeur, du travail de ses mains, c'est bien parce que justement il ne profite pas du mérite de ses ancêtres. C'est ce qu'apporte le Midrash. Et donc il est effectivement néné Miguillot, lui il vit de ce qu'il fait, il n'est pas. Il a pas. Hein? Il a des bras rotes, oui. Oh, on ne le dit pas de lui, en tout cas.
Je pense que c'est sûr que Tigia Kapecha, ça veut vraiment dire que 128, comme vous l'avez appelé, le 128, c'est quelqu'un qui se fait, on pourrait presque dire qu'il se fait tout seul. Qui montre toujours les choses en allant à l'extrême, dit, bah, qui est-ce qui se fait tout seul ? C'est la guerre.
Donc ça pourrait être un Balchouba à ce moment-là.
Pardon ?
Ça pourrait être un Balchouba.
Ça pourrait être un Balchouba. Ça peut être quelqu'un même qui est né dans une famille de Kohanim, mais qui se fait tout seul. Mm-hmm. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se fait tout seul ? Ça veut dire qu'il a reçu, mais en fait il travaille avec beaucoup plus que ce qu'il a reçu. Il travaille avec ce qu'il a ajouté lui-même, ce qu'il a fait par lui-même. Et où est-ce qu'on a une place pour faire par soi-même ? Alors, c'est ça le paradoxe, le faire par soi-même se fait dans le cadre des mitzvot assez, dans le cadre des mitzvot positives. La Torah, elle te dit, il fait, dans les mitzvot négatives, tu ne fais pas, tu ne peux pas inventer, ne pas faire, c'est clair et net. Mais quand on te dit de faire, ça ouvre tout un horizon, parce qu'il y a un minimum syndical, en quelque sorte. Voilà ce qu'il faut faire pour s'être acquitté de qu'il fallait faire, tu dois manger un kezaïd de matzah, tu dois secouer ton loulav une fois par jour, etc. Maintenant, comment est-ce que tu vas le faire ? Comment tu vas manger ? Bien sûr que l'autre fait l'ishma et tout ce que tu veux, mais il le fait dans le droit fil de ce qu'il a reçu de ses ancêtres.
Mais
il fait parfaitement.
Mais il est parfait, c'est un bon
juif. Il est parfait, c'est un très bon juif. On n'est pas en train
non,
de.
Non, il lui manque rien.
Si, il lui manque l'invention. Il manque l'invention. Il n'y a pas d'invention dans ce qu'il fait. Il fait parfaitement ce que son papa et sa maman lui ont montré. Il ajoute rien de personnel. Il y a Kapecha, ce n'est pas le boulot du forgeron obligatoirement. C'est cette idée que tu te fais par toi-même. Alors, bien entendu, il ne va pas se faire de tout seul. Le Midrash, pour que tu comprennes bien de quoi on parle, il t'a montré, prends un guerre. Un guerre, il n'a pas eu son papa et sa maman qui lui ont montré. Il n'a pas eu Abraham Avinu, il a eu Terach, le pauvre, et c'était pas un modèle. Il a quand même ramené jusqu'en Canaan. Mais bon. En tout cas, c'était pas un modèle, mais il s'est fait par lui-même. Alors maintenant, n'importe qui naît dans la famille la plus pieuse, qui soit, à prendre la famille du Kohen Gadol, etc., se faire soi-même, dans ce cadre-là, existe aussi. C'est pas réservé aux guerres. Pas réservé à celui qui a fait tout le chemin. Mais le guerre, c'est l'illustration pour qu'on comprenne bien de quoi on parle.
Ça,
c'est un supplément fabuleux.
C'est
en ça qu'il est plus grand. Et c'est ça que il se construit Olam Haba. Il se construit en vue de Olam Haba. C'est pas qu'il pense, je suis en train de construire mon Olam Haba, pas du tout. Mais le Olam Haba, c'est ce qu'on a construit par soi-même, justement. Ça veut dire j'ai les moyens de construire quelque chose dans Olam Haba. Alors, ou bien je me suis donné tout seul.
Ça, c'est la part qu'on rajoute, c'est ça?
Ça, c'est Tovlach. Tovlach, le Olam Haba. Lui, Tovlach, on lui dit, c'est bien. Tovlach, parce que ce faisant, tu construis Olam Haba. C'est pas que tu as les yeux sur le cadran de combien j'ai construit pour Olam Haba. Mais de facto, on lui dit, c'est ça en réalité la construction de l'Olam Haba. Ça qu'il faudrait peut-être encore retravailler et expliciter. En quoi ? Pourquoi l'Olam Haba, c'est justement lié à ce qu'on fait par soi-même. Si je voulais aller à l'extrême, je dirais, c'est comme si celui qui fait ce que ses parents lui ont montré et qui ne fait que cela, d'une certaine manière, il n'a pas de l'Olam Haba.
C'est terrible parce que vous avez.
Oui, alors je suis pas en train. Je t'ai dit, si je voulais aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que Olam Haba, c'est justement ce que je vais faire par moi-même. C'est ça le Olam Haba qui vient. Le Olam de mes parents, il est déjà là. Pour vivre dans le Olam de mes parents, je n'ai pas d'effort à faire, il est là. Et ils l'ont construit. C'est pas Olam Haba, le monde qui vient, c'est le monde que je me construis, dans lequel j'avance moi-même, et qui est un monde nouveau, qui n'existe pas encore. Il vient en même temps que moi, ce monde. Mais il n'y a que moi qui puisse le construire. Pas le Olam Haba de mes parents, je peux y être. Si je suis dans le droit fil des parents, mais c'est pas un vrai Olam Haba. Au sens où il a le Olam Haba que ses parents lui ont donné. C'est sa Zkhout Avot. Mais il n'a rien ajouté, il n'y a pas de pièce à lui. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une pièce où il y aura la marque qu'il aura lui-même imprimée à cette pièce, si on peut parler comme ça, cette image. Et c'est en cela qu'effectivement, il est gadol, lui, il est beaucoup plus grand.
Et il est néné aussi.
C'est ça, néné, miyegia kapecha, il jouit de l'effort qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire, il est néné? Il a une vraie jouissance de cela. Jouir, ici, ça se dit par rapport à Olam Haba. Bon, néné, c'est mis en rapport avec Olam Haba. C'est-à-dire que ce n'est pas une jouissance dans ce monde. La vraie jouissance, c'est celle que je me suis donnée par moi-même. À moi-même, par moi-même. Jouir d'un bien que mon papa m'a légué, etc. Bon, j'en jouis, j'en profite. Mais ce n'est pas la vraie jouissance. La jouissance, c'est ce que j'étais moi-même.
Et comment on fait le lien alors avec le 84 sur la réminiscence par rapport à quelque chose qu'on n'a pas connu?
Moi, je ne suis pas dans le coup. Hein. Moi, je n'étais pas là quand vous avez. Alors, je ne sais pas comment. Est-ce que je dois répondre à des questions? J'ai déjà du mal en général quand je dis quelque chose à défendre ma position, mais à défendre la vôtre.
Un instant,
je n'ai pas fini. Vous imaginez que j'ai fini? Vous trompez.
Oui,
merci.
Non, mais donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ça ne s'applique pas qu'aux guerres.
Non, parce que le problème, justement, si je comprends ce que Amir voulait dire, la notion de Hod, du encore, c'est justement une fois que j'ai reçu tout ce que je peux recevoir, de dire encore. C'est-à-dire, en fait, je veux dire encore, c'est-à-dire je veux me donner les moyens de cet encore. On pourrait presque dire, jusque-là, ce que j'ai dit, c'est le passé, c'est quoi? C'est ce que mes parents m'ont donné. C'est ce que j'ai fait parce que mes parents m'ont éduqué, parce que mes parents m'ont montré la voie. Mes parents, mes maîtres, ou les gens de la génération précédente ont fabriqué des structures pour que je puisse me développer, etc. Maintenant, Aude, dire qu'on parle d'un futur, enfin, fabriquer du futur, comme il disait, qu'il y ait de l'encore. Encore, c'est quand on aime vraiment quelque chose, on demande encore. Odial, ça veut dire, je parle des louanges qu'on a dites. C'est pas seulement, ça fait référence au Beth Amikdash, etc., on n'y était pas et tout, mais ça veut dire, j'ai dit des louanges, mais je les ai dites parce que David Amenach les a dites. D'une certaine manière. Mais ce qui serait bien, c'est que on en dise encore. Donc, sur la lancée de ce que David Amener a dit, qui est peut-être indépassable, si vous voulez, peu importe, mais dans l'idée, c'est, je voudrais pouvoir en dire encore. Encore, c'est éventuellement, le véritable encore, ce serait de nouvelles louanges. Pas répéter les louanges qui ont déjà été dites. Mais alors, comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que on dit des Teilim parce que David Amer, il a vécu quasiment toutes les situations du monde, dans sa vie. Et donc, quand nous les disons, nous reprenons à notre compte cette situation-là. Quand je le dis à ma manière, même si en fait je le dis avec les mots que David a choisis, non, mais je le dis avec mon ton, si on veut, je le dis avec mon cœur à moi, alors ça devient une louange que j'ai faite moi-même. C'est pas qu'on va fabriquer quelque chose qui n'a jamais complètement de l'inouï, de l'inédit, complètement les paroles. Non, c'est un tout petit peu. C'est une nouvelle. Je vais mettre mon grain de sel. Alors, je vais donner à la recette qui m'a été transmise, je vais donner une personnalité, je vais ajouter quelque chose, un petit truc à moi, qui va personnaliser justement ce que j'ai reçu. Et du coup, c'est toujours le Tehillim de David, parce que probablement que c'est indépassable, mais c'est moi qui l'ai dit. Et moi, je l'ai dit d'une certaine manière, ou je les chante à ma manière, ou je les comprends d'une autre manière, c'est tellement riche. Donc voilà, ça, c'est ma compréhension. On a fait. Voilà, lui, il a essayé de. Il nous a vendu du Lahad pour du Hod, mais c'est pas tellement faux. On peut le défendre, ça, si on peut le défendre. Mais c'est défendable. Lahad, c'est un Hod qui continue sans arrêt jusqu'à la fin des temps, c'est juste. C'est un pieux qui prie. Et le 128, c'est quelqu'un qui étudie, qui l'invente.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a trois façons d'inventer, par exemple une façon selon la parole, selon la pensée, une façon selon la parole, une façon selon l'action. C'est-à-dire, je reçois le Tehillim, alors selon la pensée, je vais interpréter pour comprendre de nouveaux sens. Selon la parole, vous dites, je vais ajouter quelque chose dans le ton, dans l'état, dans la façon de le dire, et selon l'action, je vais carrément écrire un nouveau livre.
Oui, c'est si effectivement on envisage le caractère dépassable des Tehillim de David.
Mais que j'écrive un nouveau livre, ça ne veut pas dire que je vais dépasser le Tehillim. Ça veut dire que je vais écrire un livre qui est le livre que je dois écrire.
Là-bas, la Shira, c'est la Torah.
La Shira, c'est la Torah, mais ça a évolué. C'est pas seulement le Megillah de la Torah, c'est vraiment la Torah telle que je la reçois, telle que je l'étudie, telle que je la comprends.
Oui, juste que dans l'écriture, ça se remarque pas. Quand la mitzvah, c'est d'écrire telle qu'elle. Mais c'est vrai que, à la limite, un sofer, il pourra dire, moi, quand j'écris, il y a néanmoins ma personnalité qui s'exprime. Même si j'écris les mêmes lettres que tout le monde, je ne peux évidemment pas changer le texte de la Torah. Mais ma façon d'écrire, c'est moi. On reconnaît un sofer. Ce graphie-là, c'est la calligraphie. En fait, on reconnaît bien la personnalité du sofer. Peut-être, effectivement, dans cette écriture-là, il y a un passage à l'acte, c'est de l'ordre de l'action.
Peut-être que ajouter des semaines, c'est de ne pas interpréter que la mitzvah, c'est de faire un clair comme un sofer en Megillah, mais d'écrire vraiment une nouvelle Torah, pas pour que ce soit la Torah pour le juif, mais parce que c'est la Torah que chaque juif est la Torah. Chaque juif est une lettre de la Torah, et si je n'écris pas cette lettre que je suis de la Torah, je n'accomplis pas la mitzvah d'écrire la Torah. Et si j'écris une Megillah comme un sofer, je n'accomplis pas non plus la Megillah d'écrire cette lettre que je suis de la Torah.
Mais de toute façon, quand vous écrivez, c'est vous qui écrivez, votre personnalité se marque dans votre façon d'écrire.
Mais un sofer est censé ne pas avoir aucune personnalité.
Ça,
on ne regarde pas, quand on regarde un fromage, on ne voit pas la personnalité d'un sofer.
Si, c'est bon. Si. Je pense qu'un sofer, il voit très bien qui a écrit, disons que les sofrimes entre eux, ça. Ils se
reconnaissent.
Pardon ?
Ils se reconnaissent.
Bien sûr. Moi je ne suis pas un expert, alors je ne vois pas obligatoirement la différence entre les gens qui ont très fine.
C'est technique, c'est pas
non, non.
Existentiel. C'est
dans une calligraphie, c'est jamais technique. La calligraphie n'est pas que technique.
Non, c'est pas. Oui, je sais. Pour les Chinois, comme pas pour les
Chinois. Pour nous aussi. La calligraphie, c'est la calligraphie, qu'elle soit arabe, chinoise, oui. La calligraphie, c'est la calligraphie. Simplement, on a moins de. Je ne sais pas combien ils sont. Sont liés dans leur calligraphie, on parlait de ça, je sais pas. Rien à dire, dans la Torah, les règles sont quand même très, frère, il est très lié, mais néanmoins, il y a sa personnalité qui s'exprime. Regardez deux secrets Torah, vous voyez bien qu'ils ne sont pas écrits de la même manière.
Mais si tous les humains ne font pas exactement comme nous on fait les hommes, par exemple, des prières du matin jusqu'au soir, c'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'on fait, nous, l'éducation.
Ils font beaucoup de prières. Hein.
Beaucoup moins que nous.
Mais non.
Il faudrait qu'on les aime comme nous.
Ils ont cinq prières par jour. C'est un des problèmes.
Est-ce qu'ils sont comme nous? Est-ce qu'on faut qu'on les aime comme nous-mêmes?
Nous, on a trois prières. Eux, ils en ont cinq. Nous, on a la sainte Kayom Kippour.
Et aussi, c'est l'aide de la Torah aussi, sans juif. On ne va pas accepter un nouveau maître, une nouvelle religion.
Mais non, mais on ne dit pas, je ne fais pas d'appel
pour qu'on accepte.
Non, mais ne croyez pas.
Ce qu'il faut, c'est accepter qu'ils sont comme nous-mêmes, exactement. C'est-à-dire, à chaque fois, donner des ordres divins, à tous les humains, les mêmes ordres divins.
Non, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a Sheva Mitzvot de Bnei Noach et 613 Mitzvot. Non, non. Non.
On a tous 248.
Non.
Alors voulez-vous être le Mashiach alors? Allez-y, allez-y, vous ne pouvez pas chier alors. Si moi je vous explique, moi Mashiach,